Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Vous écoutez Lesbos Son avec Nathalie Di Palma. Sur les ondes de CKUT, le 90.3 FM.
Bonsoir, merci d'être à l'écoute. Vous êtes avec Nathalie Di Palma pour la prochaine heure. Notre invitée a passé une grande partie de sa vie à se faire dire « Sois belle et tais-toi ». Je suis très heureuse qu'Ève Salvaille ait accepté de nous parler de son autobiographie « Sois-toi et t'es belle » publiée aux Éditions de l'Homme. Dans son livre, de manière très lucide, elle nous présente les différents personnages qui se sont greffés à elle au cours du temps. Son personnage le plus connu est sans aucun doute cette magnifique mannequin, avant-gardiste et audacieuse qui a réussi à faire une carrière internationale avec le crâne rasé et tatoué. Il faut une beauté unique et beaucoup de cran pour oser ce look au début des années 90 et réussir à révolutionner le concept de beauté au sein de l'industrie de la mode. Bonsoir Ève Salvaille.
Allô?
Alors, t'as grandi à Matane, en Gaspésie. T'as eu la chance d'être adoptée par des parents artistes. Adolescente, t'avais un mohawk sur la tête quand tes amis t'ont mis au défi de participer à un concours de mannequin pour un magazine Clin d'œil. Et comme tu adores les défis, t'as laissé pousser tes cheveux, tu t'es inscrite au concours. T'as été sélectionnée parmi plus de 3000 filles et t'as gagné le prix Photogénie à ce concours. Est-ce que de gagner le concours t'a donné envie de faire ce métier-là?
Ah, très bonne question. Je ne sais pas, oui, j'étais curieuse de voir si j'allais aller plus loin. Puis de gagner le prix Photogénie me donnait déjà un contrat d'un an avec une grosse agence à Montréal de mannequins. Donc, c'était une opportunité que je voulais quand même pas manquer. Fait que oui, je dirais que oui.
Puis en revenant du concours, une des premières choses que tu as fait, c'est de raser tes cheveux à nouveau. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà l'idée de devenir un jour la première mannequin avec la tête rasée?
Oh non, c'était vraiment beaucoup d'années avant, là. J'avais 18 ans, ben beaucoup d'années, non? Ça fait, c'était 2 ans avant, ça me semble une vie. C'était 2 ans avant. Non, je voulais juste... Moi, je voulais être rasée, je trouvais ça plus beau. Je me trouvais plus belle rasée, mais pas nécessairement, j'avais pas encore pensé avec audace que je pourrais être une mannequin rasée.
OK. Et c'est en 90 que tu demandes à ton agent de te jumeler à une agence de Tokyo, puis c'est là-bas que tu as décidé de passer à l'action, de te raser la tête et de te faire tatouer le dragon. Qu'est-ce que ça a provoqué comme réaction autour de toi?
Ça a été 2 ans plus tard, en fait. Donc, j'ai été à Tokyo plusieurs pour ces 2 ans-là, là, en élan. Okay. Et puis, après ces 2 ans-là, c'est là que j'ai décidé de faire le grand move de raser et tatouer. Mes agents m'ont laissé tomber carrément. Il y avait personne qui était partant avec ça. Puis moi, j'avais pas demandé à l'avance. Parce que je me suis dit, c'est tellement beau, c'est sûr qu'ils vont dire oui.
Mais c'est grâce à un photographe de Montréal, Carl Lessard, que tu as été remarqué par Jean-Paul Gaultier et que ta carrière de mannequin sur la scène internationale a vraiment débuté à l'âge de 20 ans. Et à partir de ce moment-là, ta carrière est partie en flèche tellement que ça a pris quelques années avant que tu reviennes au Québec. Comment as-tu vécu ces premières années du métier?
J'ai trouvé ça très difficile. Vraiment, là, j'ai trouvé ça très difficile parce que je suis devenue une célébrité overnight. Du jour au lendemain, en une seconde, j'étais rendue une célébrité. Donc, aller au dépanneur, tout le monde connaissait mon nom. Moi, je connaissais pas leur nom, puis je comprenais pas. Tu sais, je venais de Matane, c'était très difficile pour moi d'accepter puis de me sentir à l'aise dans cette situation-là. Puis on envie les célébrités, mais c'est pas si facile que ça, j'avoue, de l'être.
Non, c'est ça. Il y a un lot de désavantages aussi à être connu. Et qu'est-ce que ça te faisait vivre d'être connu?
Ça me faisait vivre quoi? Ça me faisait vivre... Ben, j'avais l'impression d'être toujours, toujours observée.
Oui, c'est ça.
De tout ce que je faisais qui était très banal comme activité avant, tout d'un coup devenait répertorié. Puis les gens me regardaient comme si j'étais... je sais pas, moi, un animal exotique au zoo, là. Les gens me regardaient vraiment de très proche, puis ils me vieuxtaient partout où j'allais, puis j'étais pas habituée à ça. C'était pas... Il y avait plus de... On dirait que les gens voyaient que le personnage, que l'espèce d'image qui s'était faite de moi, mais plus lui-même en dessous. Donc, ils voyaient plus la petitesse, ils voyaient juste le personnage.
Ça, tu devenais une image.
Ben c'est ça, puis ils me mettaient sur un piédestal que je trouvais pas que je pitais là. J'étais vraiment mal à l'aise avec tout ça, puis j'appelais maman beaucoup pour essayer de retrouver mes racines, puis remettre mes pieds par terre, parce que j'avais vraiment de la difficulté à dealer avec ça.
À l'adolescence, ou peut-être un peu plus jeune, ta grandeur et ta minceur t'ont causé un peu d'intimidation parmi les autres jeunes, parce que tu étais grande et mince. Mais est-ce que le mannequinat a réussi à réparer ces blessures-là? Est-ce que ça a réussi à te nourrir, toi, en tant que femme artiste?
Oui. Oui, ça a changé ma perception de moi-même. Autant je fitais pas. Il y a eu un petit moment où est-ce que c'était un peu... encore là, ça faisait partie du truc qui était difficile à comprendre puis à accepter pour moi, c'était de passer du vilain petit canard à une personne qui est considérée comme une des plus belles femmes au monde. Puis tous les mannequins avec qui je travaillais, les Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, toutes, Claudia Schiffer, avaient toutes le même problème. Ils étaient très laides à l'école, trop grandes, maladroites, un peu tout croche, trop maigres, pas de faim. Puis là, tout d'un coup, ils étaient considérés comme les plus belles femmes au monde. C'est un ajustement. C'est quand on est habitué d'essayer de se cacher, surtout mon corps, j'essayais souvent de le cacher. Je m'habillais toujours avec des vêtements trop grands, puis là, tout d'un coup, c'est ça, c'était... j'ai changé overnight, mais ma perception, ça a pris 2-3 minutes avant de réajuster.
Oui, c'est un gros contraste quand même. Tu dis que tu te sens plus en sécurité sous l'eau que sur la terre, et dans tes moments les plus stressants, c'est de t'imaginer sous l'eau qui te calmait le plus. Ça vient d'où, ce sentiment de sécurité quand tu es dans l'eau?
Ça vient d'aller faire de la plongée avec mon père. Mais la plongée sous-marine, tous les gens qui ont déjà fait de la plongée sous-marine vont comprendre exactement de quoi je parle. Là. Il y a quelque chose de très, très magique en dessous de l'eau. Puis il y a quelque chose de très apaisant. Puis pour avoir une bonne sortie en plongée, ben il faut que tout devienne calme, les mouvements deviennent calmes, la respiration. C'est vraiment un truc de contrôle qui est ça. Puis il n'y a pas d'autres distractions externes. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, avec les téléphones intelligents, on est habitué de toujours avoir un truc qui vide sa table. Puis, en fais-tu, tu sais, c'est constamment en dessous de l'eau, on n'a pas ça, là.
Tu as déjà rêvé d'avoir la capacité de respirer dans l'eau?
Oui.
On va y aller avec Daniel Bélanger, sa chanson « Respirer dans l'eau ».
Le même sans plumeau. suis enfin moi, enfin moi. Et puis le jour fait ce qu'il fait, défait le dormeur satisfait. Chasse tous les corps célestes, tout y passe bien peu qu'il reste. Il reste moi qui volais, qui respirait dans l'eau. Aidez-moi, moi qui souris, qui marche enfin, la tête hors des épaules, libre dans un corps, moi qui jaillis des souterrains de 100 siècles de tôle, libre à mourir. De 100 siècles de tôle, libre à mourir, mourir, mourir.
Nous sommes toujours avec Eve Salvay. C'est après une prestation musicale au gala de la Griffe d'Or que Daniel Bélanger t'a remarqué et qu'il t'a contacté dans le but d'écrire une chanson pour toi. Et c'est le succès Rêver mieux, rien de moins, qui est sorti de votre rencontre, que tu devais enregistrer en studio. Mais ça a été un rendez-vous manqué. Mais est-ce que ça fait encore partie de tes projets de chanter?
Non, je veux pas. Ça, c'est quelque chose... Ah, je dis non. Je disais non pour écrire un livre, puis regarde où je suis rendue. Fait que, faut jamais dire non dans la vie. On ne sait jamais où est-ce qu'on va se retrouver. Pour ce qui est de rêver mieux, c'est sûr que c'est, je pense que c'est un de mes seuls regrets du passé, c'est d'avoir pas chanté cette chanson-là avec lui, parce que je pense qu'on aurait eu bien du fun, puis la chanson est très belle, effectivement. Mais je suis contente pour lui que ça a été un très, très beau succès, puis écoute, super belle chanson qu'il a écrit là, non?
Ah ouais, est-ce que tu l'as chanté juste pour toi?
Non, j'ai jamais. C'est une maudite bonne question. J'ai jamais essayé. Non. Je sais même pas si je serais capable de la chanter, c'est vrai.
Parce que tu chantes super bien.
Merci. Je suis intimidée par être chanteuse. Ça m'intimide beaucoup. Puis comme je suis intimidée, ben j'ai de la misère à. C'est drôle, hein? Moi qui est si à l'aise sur les stages puis tout ça, chanter, là, ça me rend super mal à l'aise. Vraiment, là, de faire une performance sur un stage, ça me rend hyper anxieuse, mal à l'aise, intimidée. Je me sens vraiment pas dans mon élément. Pourtant, toute autre chose, il n'y a pas de problème, mais ça...
C'est comme si tu te mettais à nu un peu.
Oui, c'est exactement ça. J'ai l'impression de me mettre à nu.
Étrangement, dans le milieu de la mode, c'était mieux vu de consommer de la drogue et de l'alcool. D'ailleurs, tu dis que tu avais une drogue de choix pour chaque défilé. Qu'est-ce que chaque drogue t'apportait dans ces différents contextes?
Je pense que ça gelait l'espèce de tempête qu'il y avait en dedans de moi. Ça faisait en sorte que je n'étais pas là. Puis je pense que ça m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup à être capable de passer à travers toutes les montagnes russes d'émotions que ce métier-là apporte, puis de tomber dans une espèce de « je m'en foutus », de « j'étais pas là ».
Mais il me semble que la drogue peut aussi amplifier le stress. C'était-tu difficile pour toi de garder le contrôle? Est-ce que ça t'est arrivé de dire « non, je sors pas dans l'arrière du rideau » ou « je vais pas sur la passerelle » ou...
Ça dépend quelle drogue, là. Mais puis ça dépend aussi combien t'en prends. Je veux dire, t'arrives bas fond, si t'es dépendant à une drogue, quand t'arrives à la fin, avant d'arriver au bas fond complètement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de paranoïa, de trucs comme ça qui embarquent. Mais avant ça, quand on a encore le contrôle, c'est juste le fun. Mmh. J'ai eu du fun à prendre des drogues. Puis un jour, c'est devenu plus le fun pantoute, là, mais non, ça ne m'a jamais vraiment empêché. J'étais très contrôlée aussi, là. J'en prenais pas des quantités industrielles, justement, pour être capable de me tenir debout, oui. Puis de continuer à parler correctement, puis à répondre aux questions dans des entrevues correctement.
Est-ce que tu considères que tu étais plus rebelle que les autres mannequins avec qui tu travaillais?
Oui. Oui, j'étais une petite punk, même que j'intimidais les autres mannequins avec qui je travaillais.
C'est par ton allure, par ton look?
Oui, par mon look. Parce que dans ce temps-là, on se rappelle que dans les années 90, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a des tatouages. Ma maman a un tatouage. Mon neveu a un tatouage. C'est tout, les jeunes ont des tatouages. C'est très, très commun aujourd'hui. Dans ce temps-là, il y en avait pas. Puis de trouver quelqu'un pour te faire un tatouage, c'était pas comme aujourd'hui. C'était très difficile à trouver. C'est vraiment peu commun là d'avoir des tatouages. Donc déjà, juste ça, puis en plus, j'étais la première rasée. Puis maintenant, c'est, je regarde ça maintenant, puis c'est comme presque banal. Mais même à ça, j'ai été au petit café d'en bas hier, puis il y avait des petits jeunes dehors qui avaient peut-être 9 ans, 10 ans, 11 ans. Puis c'était retourné tout de suite en voyant que j'avais le crâne rasé avec un tatou sur la tête. Ça impressionne encore aujourd'hui, imagine en 1992.
Tu venais juste de le faire refaire?
Innocente.
My God.
Non, mais c'était fatal. Puis je me disais, mais t'es doux, ben, conne. Mais pourquoi? Puis je suis contente, là. Je le regarde, puis je le trouve tellement beau. Je me sens toute jeune, toute belle, toute.
Ah ouais, puis il est vraiment beau, là.
Oui, merci. Ça a fait vraiment mal, là, la deuxième fois aussi. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ça fasse pas mal. Puis le tatoueur, il a dit ben, on se revoit dans 30 ans, parce que ça faisait 30 ans que je l'avais pas fait. Puis tu sais, je vais avoir 80.
Aïe, aïe, aïe. Combien de temps ça a duré en tout, ta carrière de mannequin?
À peu près 7 ans, 7 ans et demi pour le pic, là, pour le. C'est peut-être plus long que ça, là, mais c'est dans ces eaux-là, là, à peu près.
Et est-ce que c'est toi qui as décidé de mettre fin à cette carrière-là?
Oui. En fait, c'est une carrière très courte. Mm-hmm. Puis c'est eux qui te jettent. Puis littéralement, du jour au lendemain, on se fait complètement oublier, remplacer, jeter. Puis c'est correct, là. C'est juste, ça fait partie de la game. Mais c'est ça. Je voulais pas ça. Mon ego aurait probablement pas été capable de le prendre. Donc, je me suis dit, je vais terminer ma carrière juste quand je vois que la fin s'en vient. Je vais la terminer avant de me faire jeter.
Qu'est-ce que ça t'a fait vivre comme émotion d'arrêter de faire ce métier-là?
Ben, c'était difficile parce que c'est tout ce que je connaissais. Je le compare souvent à une carrière d'athlète. Les athlètes sont comme ça. Ils s'entraînent du matin au soir. Ils mangent d'une certaine manière, mais c'est vraiment comme ils n'ont aucune vie. Ils n'écoutent pas la télé, ils voyagent pour des compétitions. Ils s'entraînent, font attention à tout, combien d'hommes. Puis, à la fin de la carrière, ben ils ont passé toutes ces années-là à pas faire ce que les gens normaux ont fait, qui ont été à l'école, qui ont eu de l'expérience de travail, de l'expérience de vie, qui ont peut-être eu même des enfants... Et moi, j'avais rien de ça, aucune connaissance. Tout ce que je faisais, c'est des drogues, puis je faisais des shows, puis je voyageais. Donc, j'ai beaucoup d'expérience de vie, mais j'ai pas une expérience. Tu sais, je peux pas aller dire ah ben j'aimerais ça faire électricienne dans la vie. Tu sais, il faut que je recommence à il y a 20 ans.
Oui, c'est ça. Tu dessines depuis toujours aussi. En 2015, tu as rassemblé tes œuvres pour en faire une exposition dans une galerie d'art de Montréal qui s'intitulait « Dans mes têtes ». D'ailleurs, tu nous partages quelques-uns de tes dessins dans ton livre et c'est en l'écrivant que tu t'es rendu compte qu'ils représentaient bien les personnages que tu décris dans ton ouvrage. Ça faisait-tu longtemps que tu les avais regardés?
Oui, ça faisait longtemps que je les avais regardés. C'était le fun parce que comme c'était comme un peu... comme des journaux intimes, j'en ai, je pense qu'il y en a 12 en tout, des grands cahiers de plusieurs, je dirais 100 pages certains. Ils sont remplis, ces 12 cahiers-là. Donc, de passer à travers ça, c'est sûr que quand j'ai fait le cinquième élément, ben je dessinais dans les coulisses pendant que je vivais cette expérience-là. Donc, c'est vraiment, ça raconte vraiment l'histoire juste en dessin. De ce qui s'est passé dans ma vie durant ces années-là. Fait que je trouvais ça, c'est vraiment un beau voyage de regarder là-dedans, surtout pour moi, parce que je les comprends. Tu sais, pour quelqu'un d'autre, peut-être que non, mais moi, ils ont toutes... Je les capte, c'est comme si j'avais écrit.
Là. Ah ben, ils sont le fun à regarder pour les autres aussi, là, je peux
oui?
te le confirmer.
Okay. C'est le fun. C'est bon à savoir. Je suis contente.
Est-ce que tu dessines encore?
Ben, pas vraiment. J'ai tendance à... Là, j'écris maintenant. Fait que j'ai eu un peu la piqûre pour ça, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun d'écrire. Mais c'est ça, je dessine pas très souvent. Là, je viens de faire un dessin pour une... je pense qu'une espèce d'encan levé de fond qui vient en aide aux gens qui ont la difficulté avec la dépression, des trucs comme ça, là, les problèmes mentaux. Mais j'étais tellement énervée qu'on me demande de faire un petit dessin. Ils m'ont demandé ça pour le mois de mai, puis ça a pris une demi-journée, puis le dessin était fait. J'adore dessiner. C'est vraiment... je dessine depuis que je suis très, très jeune, puis j'aime vraiment ça, puis je me sens à l'aise. Là. J'ai pas de doute sur mes capacités quand je dessine.
Comme tu disais tantôt, tu as travaillé entouré des plus belles femmes, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer et plusieurs autres. C'est à Tokyo que tu as eu une relation gay avec une autre mannequin. Est-ce que tu savais avant cette relation-là que tu avais une attirance pour les filles?
Je pense pas, non. Mais maintenant, je regarde en arrière, puis je le vois que depuis un très jeune âge, j'avais le kick sur la gardienne. J'avais des kicks. Vraiment, je le vois, là, que c'est obvious que je fais. Ça me saute aux yeux maintenant, mais à ce moment-là, j'avais aucune espèce d'idée, non. Avant la première relation avec une femme, j'avais aucune idée que j'aimais les femmes.
Tu as fait ton coming out à 40 ans. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps?
Bien, j'ai attendu parce que j'étais pas à l'aise avec ça. J'avais honte. Je trouvais que j'étais déjà marginale. J'étais déjà une personne qui n'était pas vraiment aimée à l'école, point de vue physique. Je n'étais pas populaire. Il me semble que j'avais des affaires qui étaient comme toutes différentes des autres kids autour de moi. Puis là, en plus, rajoute « gay ». Fait que je trouvais que c'était un défaut. Je pensais que c'était quelque chose que je pouvais remédier. Donc, j'ai sorti avec des gars pendant longtemps en essayant de tomber en amour avec des garçons. Puis, je comprenais donc pas. Je me suis dit, bon, ben, c'est lui, c'est pas le bon. Je comprenais pas. Puis, j'avais très honte. Fait que ça m'a pris beaucoup de temps à m'accepter dans tout ça. Puis, à voir que c'est une belle chose. À 40 ans, quand j'ai fait mon premier coming out, c'est aussi parce que on me dit que je pouvais venir en aide parce qu'il y avait, on me dit qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient la même espèce de honte de ça. Puis il y avait d'autres personnes aussi qui étaient dans des familles qui acceptaient pas le fait que eux, ils étaient gays. Donc, ils faisaient leur coming out à l'âge de 12-13 ans à leurs parents, puis les parents les foutaient l'enfant dehors ou c'est renier l'enfant ou. Fait que je me suis dit, ben peut-être qu'en tant que personnalité connue, je pourrais peut-être dire, bon, ben, moi, je l'ai faite. Puis.
Ouais, tu deviens un peu un modèle.
Ben, c'est ça, un peu comme Elton John l'a fait.
Mais je pense que c'est un processus que beaucoup de gays et lesbiennes vivent quand ils se rendent compte qu'ils sont homosexuels, d'avoir honte. Ben oui, on a toute l'impression de pas fitter dans la société là, quand on se rend compte qu'on est gay, j'ai l'impression.
Moi, ouais, c'est ça. Moi, je l'ai annoncé à mes parents à l'âge de, je pense, 21 ans, à peu près 22, je sais pas trop. C'est ça, je l'ai annoncé à eux, mais j'ai pas eu le courage de l'annoncer à mes amis. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait des amis qui étaient gays ou qui étaient... que j'avais rencontré dans... Tu comprends? Des amis que je savais qui acceptaient les gays. Puis là, c'était des nouveaux amis qui me connaissaient en tant que gay. Mais c'était un très petit groupe. Puis c'était... c'est ça. J'avais vraiment honte de ça.
Mais est-ce que tu devais le cacher dans le milieu de la mode?
Non, c'était in à ce moment-là. Il y avait Britney Spears qui avait frenché Madonna au bout d'un runway pour un fashion show. C'était vraiment cool d'être lesbienne. Puis... ça non plus, je n'étais pas là-dedans parce que moi, c'était pas un show. Je savais très bien que Britney et Madonna ne sont pas lesbiennes, non? Fait qu'eux autres, ils faisaient ça pour le show, puis c'était bien correct, là, sauf que c'est pas. C'était juste comme fashionable. Puis ça, tu vois, ça, je voyais ça comme presque insultant parce que moi, je vivais tellement de peur puis de trucs difficiles à travers le fait que j'étais gay, puis c'était comme si eux autres, ils tournaient ça en joke. Parce qu'eux autres sont pas vraiment gays, puis ils sont comme. Ils font ça pour le show, puis c'est comme ils savaient pas la souffrance qu'il y a en dessous de ça d'être gay, puis de pas être capable de l'avouer aux gens autour de nous, tu sais.
Ouais. Et c'est face au public que tu l'as dit à 40 ans?
C'est ça, c'est le public et les journalistes qui l'ont su à 40 ans.
Okay.
Donc, de toute façon, d'un autre côté, j'en avais parlé à mes parents, puis maman avait apporté un très bon point. Elle avait dit, moi, quand je me présente, je dis pas Lise, Lise hétérosexuelle. Fait que pourquoi, toi, il faudrait que tu justifies ce que tu fais en toute intimité dans ta chambre à coucher, tu sais?
C'est ça. Oui, effectivement. Mais c'est sûr que quand tu le dis, en même temps, tu deviens un peu un modèle pour les plus jeunes qui ont peut-être de la difficulté avec ça. Pendant longtemps, on n'a pas vraiment eu de modèle, mais c'est sûr quand on se présente pas en disant « Bonjour, je suis lesbienne ».
Mais effectivement, une fois que j'ai su ça, ça a enlevé mon côté de honte, parce que là, je l'ai vu comme quelque chose de positif, qui pourrait avoir un impact positif pour quelqu'un. Donc, c'est devenu comme quelque chose comme... tranquillement pas vite, dont j'étais fière parce que je me suis dit, bon, ben là, j'influence, tu sais, ça peut être beau.
Est-ce que tu crois que c'était plus accepté d'être un homme gay plutôt qu'une femme gay dans le milieu de la mode?
Ben, même les hommes, à ce moment-là, c'était pas très accepté non plus, là.
Non.
Je veux dire, il y en a, ben non, je pense pas, tu sais, c'est pas quelque chose qui se parlait énormément, là.
Est-ce que tu te souviens en 93 quand Kelly Lang et Cindy Crawford ont fait la première page du magazine Vanity Fair?
Oh mon Dieu, oui!
Est-ce que tu travaillais déjà avec elle? Oui. Puis ça a été quoi ta réaction?
C'était cool. C'est ça que je dis, c'était à mode d'être gay. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était ce qu'on disait « fashionable ».
Alors, on va aller en musique avec la chanson « Modern Love » de David Bowie. Qu'est-ce qu'elle évoque pour toi, cette chanson-là?
J'adore cette chanson-là. Cette chanson-là me ramène immédiatement à l'âge de 12 ans, heureuse. Ça me rend heureuse. Merci.
De retour avec Eve Salvaille. Dans ton livre, tu parles qu'en 97, tu as beaucoup été affectée par l'annonce du meurtre de Versace alors que vous l'attendiez à l'hôtel, qui était censé être avec vous pour les essayages de son défilé. En plus, tu lui avais préparé un petit mot en italien que tu n'as jamais pu lui remettre. Ça a été quoi ta réaction et celle des autres mannequins qui étaient sur place?
On était tous sous choc. C'était vraiment un grand, grand choc. C'est ce genre de truc qui arrive dans les films, qui arrive aux autres, mais qui n'arrive pas proche de nous comme ça. Surtout Versace, Gianni, c'était vraiment une personne hyper douce, gentille. Il n'avait que des qualités. Je l'ai vraiment là, une personne extraordinaire. D'accord. Mais mon Dieu, c'était tellement violent, vulgaire. Fait que je me rappelle qu'on s'était même pas regardé, on se voyait sans se voir, on pleurait en s'en allant au lobby, puis on se demandait, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va où? On fait quoi? Tu sais, c'est... Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, c'est un gros choc, mais et qu'est-ce que tu voulais lui dire, Versace?
Ah, ben je faisais des niaiseries sur ses shows toutes les fois, donc je voulais m'excuser avec un grand respect devant cet homme. Puis c'est ça, je voulais seulement m'excuser puis aussi le remercier pour tout ce qu'il m'a donné parce qu'il m'a pris quand même souvent pour ses shows, ses campagnes. Fait que c'est ça.
Tu parles aussi de ta relation amoureuse avec Pina dans les années 90, qui a aussi été victime d'un horrible meurtre en 2009. Est-ce que tu étais à Montréal quand c'est arrivé? Comment as-tu appris cette nouvelle?
Non, j'étais encore à New York à ce moment-là, quand c'est arrivé en 2009. Puis c'est une de nos amies en commun qui habite New York qui m'a appelée puis qui m'a demandé si je savais ce qui était arrivé avec Pina. Puis moi, j'étais sûre que c'était une overdose, donc j'ai dit non, mais elle m'a pas donné de détails au téléphone.
OK.
Puis c'est ça, c'est avec mon amie Lynn, je parle de ma meilleure amie Lynn, c'est que j'ai appelé Lynn, puis elle m'a tout raconté, là. Elle était avec elle ce soir-là, le dernier soir que Pina était en vie.
Oui. Moi, je m'en souviens très bien aussi, parce que c'était pendant la fierté gay à Montréal. Ces disparitions soudaines et tragiques ont eu quel impact dans ta vie?
Oh, mon Dieu! Pour Pina, je n'étais plus en contact avec elle. Ça faisait un bon 10 ans. Donc, c'était... pas que c'était moins pire, mais dans un sens, peut-être que ça l'était en fait moins pire un peu à cause de ça. Mais c'était assez comme... j'ai eu de la difficulté à dormir. J'ai eu... c'était vraiment comme un film d'horreur un peu. Parce que ce qui est arrivé, c'était... assez horrible. Puis j'étais en cours, une fois qu'ils ont trouvé le meurtrier deux ou trois ans plus tard, j'ai été en cours pour les préliminaires, pour voir si ça allait être meurtre au premier degré ou au deuxième degré. Puis, fait que j'ai vu cet homme-là, puis j'écoutais déjà beaucoup d'émissions sur qui s'appelle Forensic Files, sur les trucs de meurtre comme ça. Mais tu sais, dans ma tête, à moi, c'était juste une émission. C'était pas réel. Puis ouais, là, quand tu nommais tous les trucs sur la scène de meurtre, comment ils ont trouvé cet homme-là, puis qu'est-ce qu'il a laissé, puis tout ça, puis je comprenais ce qu'il disait. C'était des termes très techniques, mais je comprenais exactement.
T'as arrêté la drogue en 96 et t'as pris la décision de cesser de boire il y a 4 ans. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui réussissent à se défaire de leur dépendance. Bravo.
Merci.
Dis-moi, quand on a été autant d'années à se geler et à prendre l'alcool, qu'est-ce que la sobriété nous apporte?
La première fois que j'ai arrêté, c'était pas de la sobriété, c'était j'ai arrêté avec les dents serrées puis les jointures blanches là en 96. Puis je connaissais pas du tout les salles, là. Je connaissais pas le programme des 12 étapes à ce moment-là, donc c'était de peine et de misère. Puis j'étais pas heureuse là-dedans. Ça m'a fait du bien, mais la deuxième fois en rentrant dans les salles avec le programme des 12 étapes. Je vais dire que ça a changé ma vie pour le mieux. C'est incroyable. C'est incroyable. Je peux même pas te décrire 0,01% du bonheur que j'ai puis de tout ce qui a changé dans ma vie. C'est incroyable.
Ça t'a pris combien de temps à peu près pour voir les bienfaits de consommer?
24 heures.
Je trouve que les gens qui réussissent à sortir de ça ont une grande force. Ils dégagent quelque chose de vraiment profond une fois qu'ils ont réussi à sortir de leur dépendance.
Ouais, ben, merci. Je pense que c'est la force de nous. Mm. Puis c'est très humbling. Je ne sais pas c'est quoi en français. Dans l'humilité. Ça nous ramène dans l'humilité.
Oui.
Parce que c'est quand tu t'aperçois que toutes les batailles que tu as, tu sais, je veux dire, j'ai fait le tour du monde 1000 fois, là, j'en ai fait des gros shows, des grosses campagnes, des grosses. Je suis un entrepreneur, je suis une artiste multi. J'en ai fait des choses dans ma vie, mais puis j'ai toujours pas mal réussi à soit gagner ou à me rendre jusqu'au bout, même si ça marchait pas, puis avoir le beau là-dedans, tout ça. Mais la bouteille, je gagne jamais. Je gagne jamais contre elle. Hey, une bouteille, c'est pas gros, puis c'est niaiseux, puis c'est... ça cogne dans l'ego, ça.
À partir de 2005, tu deviens DJ à New York sous le nom de DJ Evalicious. Et tes premiers sets de DJ étaient dans des bars très populaires. Ça s'est pas super bien passé au début. Qu'est-ce qui a fait que tu as persévéré jusqu'à aujourd'hui?
J'ai eu la piqûre. Parce que quand on commence un nouvel emploi, dans n'importe quel domaine, c'est toujours la même chose. Au début, on se sent un petit peu nono, puis on fait des erreurs qu'un an plus tard, on est comme aïe, je peux pas croire que je faisais ces erreurs-là. Des choses qui sont nounounes, mais c'est normal parce qu'on commence quelque chose de complètement nouveau qu'on connaît pas nécessairement.
On apprend.
Fait que, mais j'ai eu la piqûre, j'ai vraiment aimé la sensation que j'avais, puis je savais que si j'étais capable de devenir bonne à ça, que j'allais aimer ça.
Puis est-ce que tu considères que tu es arrivée où tu voulais dans cette carrière-là?
Oui.
Tu as fait vraiment des grosses choses.
Oui, c'est ça. J'ai même probablement dépassé mes attentes là-dessus. Là. ça a vraiment bien été. Je pensais pas que j'allais être capable de faire ça. Fait que je suis fière de moi. J'ai travaillé fort aussi. Là. C'est pas venu sur
ouais.
Tout seul. Là.
C'est ça. Puis en plus de ta carrière de DJ, est-ce que tu envisages de continuer à faire des apparitions comme mannequin de temps en temps? Il me semble que je t'ai entendu dire que les mannequins qui travaillaient avec toi reviennent.
Oui, ben, il y a eu, c'est sûr, tout ça avant la pandémie, mais il y a eu un gros comeback des filles de ma génération, là, des top models. Puis j'y ai pensé, mais non.
Non.
Il y a quelque chose que j'ai réalisé. J'ai fait une couple de shows pour Jean-Paul, puis une couple de trucs comme ça depuis. Puis parce que c'est mon beau Jean-Paul, mais j'ai réalisé que ça fait quand même 15 ans là, que je suis DJ, 16 ans. Tout est à l'heure, puis dans tous les autres métiers, c'est comme ça aussi, sauf le mannequinat. Le mannequinat, tout le monde est en retard d'à peu près 9 heures. Puis je niaise même pas, là, j'exagère pas du tout. C'est un métier qui est très aléatoire, t'as pas de syndicat qui te protège. C'est vraiment comme ça pourrait finir du jour au lendemain, demain, ou après-demain, tu sais pas pourquoi, sans raison. Fait que, non, je suis rendue ailleurs. Je l'ai faite, de toute façon, ma carrière de mannequin, là, je peux pas dire que je l'ai pas faite puis que j'ai pas accompli des choses.
T'es allée au bout.
Moi, ouais, c'est ça. Je pense que j'ai eu ma médaille d'or, puis
ouais.
Je laisse place sur le podium à d'autres jeunes mannequins qui commencent.
Évidemment, avec la pandémie, tout s'est arrêté, mais en temps normal, tu fais aussi des conférences sur la perception de l'échec. Est-ce que ce sont des conférences ouvertes au grand public et pourquoi avoir choisi le sujet de l'échec alors que tout semble te réussir?
Ben justement, parce que tout semble facile, tout semble... On semble invincible, hein? Mais tu ne vois pas en arrière de chacun de mes succès, tu ne vois pas tout le... les struggles, puis les moments difficiles, puis les portes fermées en pleine face, puis les noms, puis... Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que des gens comme moi qui peuvent être perçus comme invincibles, puis qui ont tout sur un plateau d'argent, que nous aussi, on a de la difficulté, nous aussi, on a peur des fois, nous aussi, on est intimidés par des choses.
Puis qu'il y a beaucoup de travail en arrière de vos succès aussi.
Ouais. Puis c'est le fun de voir ça parce que moi, ça m'a aidé de savoir que je parlais de Elton John qui était à mon premier. J'avais 11 jours de sobriété au moment où est-ce que j'ai rencontré Elton John, puis je travaillais avec lui, puis dans ma tête, à moi, il était invincible. Lui, là, il a tout. Il est beau, il est fin, il est bon, il est tout. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est dans le mouvement, ça fait 30 ans.
Puis quand tu regardes le film sur sa vie, il l'a pas eu facile non plus.
Ah non, c'est ça, exactement. Fait que ça prouve que dans ma tête, à moi, quand j'ai su ça, je me suis dit, si Elton John peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Puis je me dis, bon, ben si moi, je pense comme ça, il doit y avoir du monde qui doit penser, si El Salvador est capable de le faire, moi aussi, je suis capable de le faire. Je veux pas être un modèle, mais peut-être inspirer quelqu'un ou donner, je sais pas, donner une autre perception de tu sais, des fois, on regarde la montagne en avant de nous, puis elle semble très, très grosse, mais on regarde jamais les montagnes qu'on a montées, qui sont derrière nous. On a monté et redescendu aussi, parce que c'est pas toujours facile de redescendre.
Mais ça montre que c'est faisable, c'est ça qui est beau, puis ça, c'est, comme tu dis, ça peut inspirer d'autres. Tu as habité dans plusieurs grandes villes, Tokyo, Paris, Milan, 23 ans à New York. J'ai vu que tu animais à la télévision en italien. Ça m'a vraiment impressionnée. C'est arrivé comment, ça, dans ta vie?
Grazie, amore! ben, j'étais en Italie, puis je sais pas, je pense que c'est MTV qui m'a approché pour voir si je voulais faire une émission sur la mode. C'est MTV Italia, fait que c'était en italien. Puis le réalisateur avait, il est reconnu, il aime pas les yeux du téléprompteur. Donc, il voulait pas de téléprompteur. Fait qu'il fallait que j'apprenne 17 pages de script, de scénario, comme. En italien, le soir avant, puis le lendemain matin, je recevais les scripts peut-être à 2h du matin, puis à l'hôtel, ou par fax à l'hôtel, puis là, j'apprenais tout ça, puis le lendemain à 8h, j'étais en studio, puis j'enregistrais tout ça.
Oh my God, est-ce que tu parlais déjà l'italien?
Non, ben un petit peu, oui, mais j'étais pas... il y avait beaucoup de mots que je comprenais pas dans ce que je disais.
Aïe, aïe, aïe.
Puis en plus, c'était beaucoup de choses à mémoriser. Puis quand tu comprends pas tous les mots, ben quelle intonation tu donnes à ce mot-là?
Mais t'as fait ça combien de temps?
Ça a pas duré super longtemps, là. Peut-être 6-7 mois.
T'as joué dans quelques films aussi, dont Celebrity de Woody Allen. T'as rencontré Luc Besson, qui a réalisé ton film préféré, Le Grand Bleu. Et il t'a offert le premier rôle du film Le Cinquième Élément. Tu l'as rencontré et tu t'es volontairement retiré de ce projet de film qui aurait pu démarrer quand même une grande carrière en cinéma pour toi. Tu dis que t'as choisi l'intégrité et finalement, tu as joué un petit rôle dans ce film-là quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé?
C'était difficile pour moi, ce moment-là, parce que j'essayais d'arrêter les drogues, j'essayais de faire en sorte que je savais pas qu'on pouvait pas contrôler quelqu'un pour arrêter les drogues. Je savais pas que c'était une décision qui devait venir d'elle. Mais j'essayais de faire en sorte que Pina arrête les drogues aussi, puis en tout cas, on s'entendait plus bien. C'était la fin de la relation. Tout allait mal. C'est quand tout va mal. Fait que pour plusieurs raisons, j'ai décidé de ne pas faire partie de ce film-là. En fait, de pas prendre le rôle principal.
Mais ton petit rôle est vraiment cool aussi. Hein?
Oui, c'était vraiment cool.
Woody Allen et Luc Besson ont tous les deux été éclaboussés par le mouvement #MeToo. Comment tu te sens par rapport à ça?
Je suis contente que le mouvement #MeToo existe. Je suis contente que ces femmes-là... aient le courage de le dire parce que c'est très difficile avec des grands noms comme ça qui ont tellement de pouvoir qu'ils achètent la paix. Puis regarde, là, Luc Besson s'en est sorti, Éric Salvay s'en est sorti. On pourrait continuer comme ça. Donc, c'est quelque chose d'assez controversé, puis j'ai une opinion un peu trop forte pour commencer à parler de ça, mais moi, je suis du bord du MeToo, là. c'est génial que les femmes ont finalement une voix. Puis ils peuvent finalement, sans avoir trop peur, pouvoir dire qu'est-ce qui leur est arrivé sans, tu sais. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'on est encore au point où est-ce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas assez de preuves pour pouvoir mettre ces gens-là en prison. Puis il n'y a pas de conséquences. Ils sont intouchables, ce monde-là.
Depuis 2018, tu es aussi designer de mode. Tu as créé des hoodies avec ton tatou sur le capuchon qui sont faits sur mesure. Comment ce projet-là a vu le jour? C'est un projet que tu as dû bûcher aussi pour mettre au monde?
Ben, il y a quelques années, avant de rencontrer Pascal Labelle, On avait fait une collection, ma belle-sœur et moi, ma belle-sœur et amie. Là, ça fait longtemps qu'on est super bonne chum, elle et moi. Puis c'est ça, on avait fait une collection avec ce concept-là de mettre le tatouage sur le hood de hoodies. Puis ça avait été refusé par Reitmans, par Simons, puis par Target Canada. Fait qu'on avait laissé ça de côté un peu en se disant « bon, ben ça n'a pas marché, là ». Puis j'étais bien triste de ça, remarque, mais un autre échec, tu sais, qu'on parle pas. On parle juste du fait que 2, 3, 4 ans plus tard, je rencontre Pascal Labelle, puis je la fais, la ligne de hoodies, avec ce concept-là, avec lui.
Je t'ai entendu dire en entrevue que tout le monde devrait prendre le temps d'écrire son parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire le tien?
Ben, c'était un ami qui me représentait en tant que conférencière. Il me dit, après une de mes conférences, « Écoute, tu devrais écrire un livre sur ta conférence. » Finalement, moi, j'avais toujours pensé de faire une autobiographie. Ça, je me suis dit, ben, je vais peut-être marier les deux. Parler un peu de ça, un peu de la... Puis je voulais aussi parler de mon échec contre l'alcool en me disant, ben, peut-être qu'il y a des alcooliques... dans ce monde qui, comme moi, savent pas qu'il y a un problème d'alcool ou qui n'ont pas le courage de rentrer dans les salles. Ou c'est peut-être que ce partage-là va inspirer des gens à aller demander de l'aide.
Puis est-ce que tu as trouvé l'exercice difficile? Qu'est-ce que ça t'a apporté de le faire?
Ben, c'était difficile au début parce que je n'étais pas habituée. Moi, j'étais habituée à « Sois belle et tais-toi ». Donc, ça a pris... mais c'était plus difficile, j'imagine, pour mon éditrice qui devait me dire à toutes les 5 minutes, elle aborde là-dessus, puis... moi je parlais, je pelletais des nuages, là, je parlais de rien, là.
Ça t'a eu de l'aide?
Ouais, ben quand tu commences un livre avec une maison d'édition, surtout pour moi, que c'était mon premier bouquin, écoute, j'ai pas d'expérience, je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais moi, ils m'ont dit, tu vas aller avec une éditrice, puis... vous allez écrire ensemble dans le sens qu'elle va corriger, mais elle va aussi te guider pour savoir où tu vas aller, tu sais, vu que j'ai jamais écrit de livre. C'est sûr que je me suis aperçue que j'écris pas pire quand même.
Puis, oui, t'as fait un très bon travail.
Merci beaucoup. C'est pas elle qui a écrit les choses, elle m'a juste guidée. Puis même aujourd'hui, je la remercie à tous les 5 minutes, mais elle dit « Ève, j'ai juste guidée. Moi, je t'ai dit... continue là-dessus, puis développe un peu plus. Puis, mais au début, c'était ça, c'était quasiment une joke, là. Puis j'y envoyais même des emails, je disais, bon, ben, voici un document Word de, je sais pas moi, 2000 mots, mais là-dedans, je voudrais enlever telle affaire. Puis elle m'avait dit, en fait, on enlève tout, puis le telle affaire, on le garde, puis t'es la barre là-dessus. C'était merveilleux, c'était, tu sais, puis tu deviens vraiment proche de cette personne-là, parce qu'elle connaît tout, là. C'était le fun, c'était un beau... je pense qu'on s'est bien entendu, elle et moi, puis on a fait une pas pire job ensemble. Mais c'est ça, une fois que j'ai pogné la twist de savoir, OK, bon, ben c'est là qu'il faut que j'aille. C'est ça qu'il faut que... C'est comme ça qu'il faut que je parle, tu comprends?
Oui. Est-ce que ça a été long, le processus? Est-ce que c'est long, écrire un livre?
Non. Ben, je veux dire, je travaillais beaucoup, c'était le fun, on était confinés, fait que j'avais rien d'autre à faire.
Ouais.
Je peux pas dire, aujourd'hui, je vais aller prendre... un café avec ma chum, puis là, t'arrives, tu prends un café, il fait beau dehors, on va te prendre une marche, il faudrait que je marche le chien, puis finalement, t'as rien foutu de la journée, là.
Mm-hmm.
Mais c'est ça, j'avais aucune autre raison de ne pas écrire. Fait que c'était le fun, c'est un bel exercice, c'est un bel exercice d'introspection, parce que c'est des choses qui, comme je dis tantôt, on regarde la montagne qui est devant nous, mais on regarde pas les montagnes derrière qu'on a montées puis descendues. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant de voir, hey, j'en ai fait des affaires quand même, là.
Oui.
Mais je m'en suis pas rendu compte. Puis je sais que je suis pas la seule. Tu sais, c'est sûr que ça sonne super beau, que j'ai fait un saut de Versace, mais en tout cas, dans ma tête, à moi, c'est pas plus grand que d'avoir un enfant, puis de dealer avec la mort d'un proche ou de. Tu sais, je veux dire, tout est aussi gros que.
Ça, chacun a son parcours.
Ben, c'est ça, puis on a tendance à pas regarder. D'où on vient. C'est ce que les programmes des 12 étapes nous apportent, de se rappeler d'où on vient. C'est pour ça qu'on dit 24 heures à la fois. C'est pour ça qu'on vient en aide aux alcooliques qui souffrent encore. C'est pour ça qu'on a des fioles qu'on les suit avec. Parce que ça me rappelle d'où je viens. Moi, quand je parle de ça dans le livre, de comment je suis rentrée, comment j'ai amené mon impuissance devant l'alcool, ça me rappelle d'où je viens, parce que je ne veux jamais l'oublier, ça.
Ton livre va aussi être disponible en audio, avec ta voix en plus. Comment t'as trouvé ça de relire ton histoire à voix haute?
J'ai adoré, mais je suis nulle. Ben, on m'a dit que de ne pas dire ça, que je serais pas pire quand même, puis blablabla. Mais moi, je me suis trouvée pas bonne, là.
Mais c'est jamais évident de s'entendre non plus, là.
Oui, c'est ça.
Mais est-ce qu'il est disponible déjà?
Non, il nous reste... ils m'ont écrit hier pour me dire que j'ai 12 corrections à apporter. Okay. Donc, je finis ça demain matin. Je fais mes 12 corrections en question. Puis après ça, ça devrait être très, très bientôt, là.
Est-ce qu'il y a une possibilité que ton livre soit traduit en plusieurs langues?
Je le sens, mais c'est pas dans mon contrôle, ça. J'aimerais ça que ça soit dans mon contrôle, mais ça ne l'est pas. Donc
Ça dépend-tu de combien tu vas en vendre? Ou...
Non, c'est ça que je pensais. Puis non, c'est plus... en fait, c'est comme des agents qui m'ont expliqué. C'est que c'est comme des agents. Moi, j'ai été avec l'édition de l'homme parce qu'ils sont très forts en France. Ils ont une édition de l'homme en France. Puis, comme le livre était écrit avec Jean-Paul Gaultier en préface, puis comme c'est mon histoire et se passe beaucoup en France, je me suis dit, j'aimerais ça le sortir là-bas en même temps qu'au Québec. Donc, c'était poussé pour être en français seulement. Mais pour qu'il soit en anglais, puis là, tous mes amis des États-Unis sont bien fâchés parce qu'ils ne peuvent pas lire mon livre. Mais c'est ça, pour qu'il puisse être traduit, il faut qu'un agent décide, en tout cas, j'ai pas très bien compris, là, mais c'est une affaire d'un agent qui achète le livre puis qui le fait traduire dans sa propre maison d'édition aux États-Unis ou à Londres.
En tout cas, je te le souhaite qu'il soit traduit à un moment donné. Là. Peut-être qu'un jour, on verra qu'il a été traduit en 13 langues.
Ben, j'aimerais ça, écoute, je capoterais bien raide. C'est ça, c'est le fun parce que quand t'écris un livre, c'est une autre affaire que je savais pas. On m'a demandé au tout début, avant même que j'écrive une première phrase, qu'est-ce que tu veux dire dans ton livre? C'est quoi le but d'écrire ce livre-là? Fait qu'une fois que tu as trouvé ton but, mais tout le reste, ça n'a pas vraiment d'importance, combien je vends, y a-tu traduit. C'est le fun parce que ça a descendu toutes mes attentes. Donc, quand j'ai vu qu'il se vendait bien puis qu'il y avait un impact sur les gens puis que les gens aimaient le livre, ben, j'étais aux anges, là, c'est vraiment un bel honneur. J'étais vraiment touchée par ça.
Est-ce que tu te souviens, quand tu étais petite, ce que tu répondais quand on te demandait qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande?
Oui, j'ai répondu toujours que j'allais dessiner les covers des vinyles. Moi, c'était définitif, c'était ça que j'allais faire quand j'allais être grande. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Je dessinais.
Donc, c'était le dessin déjà?
Oui, c'était certain, sûr et certain, là.
Puis, est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent? Puis, est-ce que tu as une page ou un site web où les gens peuvent s'informer sur ce qui s'en vient?
Oui, j'ai un site web, salvaille.com. Sinon, j'ai toutes les Facebook, les Instagram, Commercial à Salvaille.
C'est pas quelque chose que tu tripes tant que ça, hein, les réseaux sociaux?
J'ai dit ça pour mourir. Écoute, je suis ben trop vieille pour ça.
Est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent ou tu attends que la pandémie passe?
Non, j'ai 1000 autres projets. Écoute, il y en a tellement. Je suis tellement... dans la gratitude d'avoir justement 1001 autres projets qui n'ont pas été détruits par la pandémie puis qui sont vraiment delayed, par contre, remis à plus tard. Mais c'est très slow, là. Tout est au vraiment super ralenti à cause de la pandémie, mais il n'y a aucun de mes projets qui est mort à date. Je suis du bois.
J'ai remarqué aussi que ça te touche beaucoup quand tu constates que tu as aidé des gens en étant seulement toi-même.
Oui, c'est sûr. Je sais pas pour les autres, mais moi, je me vois pas comme... D'un, c'est pas mon intention, mais de deux, je me vois plus comme une petite fille de ma tante que quelqu'un qui peut aider quelqu'un ou qui peut venir... Tu sais, c'est vraiment le rêve ultime, là. C'est extraordinaire. Quel beau cadeau de la vie.
Je suis persuadée que la lecture de ton livre va en aider plusieurs autres. Ton livre est très inspirant et captivant, comme je te disais, puis ton parcours est vraiment fascinant. Merci beaucoup, Eve Salvaille, pour cette entrevue. Continue d'être toi, t'es belle.
Merci. Merci. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. Merci de m'avoir demandé.
Ça a été un grand plaisir. Bye bye.
Bye.
j'en suis là et j'en suis fière. Sans part féroce comme une mère. Je chante, je chute, j'avance, j'accélère. Et si c'était à refaire. Sans part féroce comme une mère. Je suivrai mes traces dans la poussière. J'ai pas tout chanté, j'ai pas tout pleuré, j'ai pas tout vu, j'ai pas tout vaincu. Pas de leçons à donner, juste mon histoire à raconter. J'ai pas tout appris, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout lu, j'ai pas tout retenu. Pas de leçons à donner, juste mon histoire à raconter. J'en suis là et j'en suis fière. Sans part féroce comme une mère. Je chante, je chute, j'avance, j'accélère. Et si c'était à refaire. Sans part féroce comme une mère. Je suivrai mes traces dans la poussière. J'ai pas tout prévu, j'ai pas tout voulu. J'ai pas tout prouvé, j'ai pas tout mérité. Pas de leçons à donner, juste mon histoire à raconter. J'ai pas tout écrit, j'ai pas tout cru. J'ai pas tout dit, j'ai pas tout entendu. Pas de leçons à donner, juste mon histoire à raconter. J'en suis là et j'en suis fière. Sans phare féroce comme une mère. Je chante. J'avance, j'accélère. Et si c'était à refaire. Sans part féroce comme une mère. Je suivrai mes traces dans la poussière. Oh. J'ai pas toujours tout partagé. Mais partout j'ai envisagé de peindre mes peurs au passé. J'en suis là et j'en suis fière. Sans part féroce comme une mère. Je chante, je chute, j'avance, j'accélère. Et si c'était à refaire. Sans part féroce comme une mère. Je suivrai.
You're knocking on the right door. If you're looking for something, well, refreshing, you're tuned in to the right station. You're listening to the coolest station in Montreal, 90.3 FM on your dial. The alternative station, the one that gives you a choice and a voice. CKUT, stay tuned.
When your parents need your help, you're there. When your kids say something's wrong, you're there. When your friends have a rough day, you're there. Be there for yourself the way you're there for others, as it's normal for these uncertain times to bring out negative emotions or anxiety. If you're finding it difficult to carry out daily tasks, there are solutions. Visit quebec.ca/gettingbetter or call Info Sociale 811. A message from the Gouvernement du Québec.
Hello and welcome. You are listening to Underground Sounds on CKUT, and I'm your host, Nick Schofield. Thanks for tuning in. I'm with you every Monday from 8 to 10 p.m., playing all Canadian independent music on the radio. Currently, I'm broadcasting at 90.3 FM, or online at ckut.ca. This is the Monday, February 1st, 2021 episode, and tonight I'm going to be playing a lot of new music by the likes of Ben Shemmy, Free Love Fenner, and Bernice. As well, I'll be playing new music